Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût alimentation générale. Pierre Hiverna est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez chaque dimanche, en fin d'émission, la chronique, la cerise sur le gâteau. La cerise ressemble à quoi aujourd'hui ?
La cerise va ressembler à un livre assez saignant d'un auteur qui est politologue et qui est essayiste et qui s'appelle Paul Ariès. C'est son dernier ouvrage.
À tout à l'heure, Pierre, aux alentours de 12h25. Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine de le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui avez-vous rencontré aujourd'hui ?
Aujourd'hui, l'écrivain Éric Orsenna.
Eh bien, à tout à l'heure pour la Madeleine de Éric Orsenna à 12h15. Et tout de suite, un plat du jour en forme de portrait. Portrait d'un lieu qui porte le nom de son créateur. À un jet de pierre de la place des Ternes à Paris, la tranquille rue Bayenne cache un surprenant restaurant qui ne ressemble à aucun autre. Un élégant décor librement inspiré de l'art déco Marie le Noir et l'Ivoire, une cheminée virtuelle dans l'entrée, un brin de nature dans les vases, une ambiance feutrée. C'est dans cet écrin que le maître des lieux propose depuis 2010 une cuisine créative et raffinée, parfaitement maîtrisée. Calamar, petite parisienne fondante, salicorne et beurre d'algues acidulées. Pomme caviar, délicatesse de l'Ardèche fondante au bois de hêtre. Caviar du fleuve Amour, cresson de fontaine et réfort. Cèpe rôti au baies rouge acidulé, senteur de chiseau, lard de colonnata jus perlé. Foie gras en petits pots, réduction de Porto Vintage, émulsion de parmesan Reggiano. Volaille fermière, pâte noire, chouquel au ginger lime, sabayon d'huître. Baba au rhum ambré agricole, gelée d'ananas Victoria et chantilly à la vanille. Bonjour à vous Frédéric Simonin.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là ce midi dans Les Bonnes Choses. C'est vous donc le chef de ce restaurant qui porte votre nom, Frédéric Simonin, qui est rue Bayenne, dans le 17e arrondissement à Paris, qui a une étoile Michelin. Mais vous en avez six des étoiles Michelin, si on les rassemble toutes, six étoiles cumulées, et trois tocs, Go et Mio. Et en plus, en décembre, vous venez d'être sacré meilleur ouvrier de France. C'est quoi exactement être meilleur ouvrier de France ? Ça veut dire quoi ? Ça regroupe quoi ? Et ça demande quoi de votre part ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la bonne question. Meilleur ouvrier de France, on n'est pas le meilleur ouvrier de France, on est l'un des meilleurs ouvriers de France. Parce qu'il faut savoir absorber ce titre avec humilité. Bah, c'est un concours pour nous, pour notre part en cuisine, c'est tous les 4 ans. Donc un concours bien précis, un thème déjà défini par les membres du jury, avec un temps imparti bien évidemment, où on doit réaliser ce plat.
Un plat, c'est pas un menu, c'est un plat.
Alors on a des présélections, on a quart de finale, demi-finale et puis la finale. Là pour la finale, nous avions 3 thèmes donc à réaliser en 5 heures de temps. Donc on avait un poisson qui était à un lieu jaune, on avait un lièvre derrière cuisiné en 3 façons avec des garnitures et puis une pavlova en dessert. Donc nous connaissions les thèmes au préalable, il fallait bien évidemment pendant le temps que nous avions nous entraîner en étant le plus parfait possible. Et donc le sujet du concours, chaque candidat rentrait avec un tirage au sort, avec un horaire bien spécifique, et puis l'envoi du premier plat à telle heure, l'envoi du second plat 30 minutes après, et 30 minutes après le dernier plat à envoyer.
Le temps, c'est quand même quelque chose de fondamental en cuisine. Là, ça fait penser à Top Chef, ce que vous racontez. Il faut absolument faire ce plat avec le plus de précision, de perfection, comme vous dites, même si c'est compliqué en cuisine. C'est pas un peu trop stressant pour réaliser un bon plat, d'être timé de cette façon-là ?
Et on sait très bien que pour faire de la bonne cuisine, il faut du temps. Il faut que ça mijote, il faut préparer les choses correctement, être serein devant. Bon, là, c'est pas le cas,
mais
on doit quand même faire les choses bien.
Donc, et ça n'empêche pas de faire des bonnes choses, malheureusement.
Et ça n'empêche pas de faire des bonnes choses, absolument.
Alors, on va revenir un peu sur votre parcours avec vous, si vous le voulez bien, Frédéric Simonin, parce que vous n'êtes pas tombé dedans quand vous étiez petit, comme on dit. Vous n'êtes pas issu ou descendant d'une lignée de cuisiniers. Vous ne vouliez même pas spécialement, au départ, être cuisinier. Vous vouliez être légionnaire. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé en cuisine ?
Ça me fait toujours rire, cette question. Bah, c'était en internat militaire. J'étais en internat militaire petit. Donc, on avait le temps d'études. Et puis, nous avons des stages à réaliser en même temps, d'une semaine, 15 jours, 3 mois, tout dépendait de l'âge des enfants. Et donc, j'ai fait comme ça de la menuiserie, un atelier de menuiserie que j'ai commencé par faire. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai fait de la maçonnerie. Et puis après, j'ai changé de stage encore. Je me suis retrouvé cavalier soigneur. Et puis, je me suis retrouvé à faire de la cuisine parce que j'avais un camarade de chambre qui me disait « Putain, mais va en cuisine !» Il fait chaud, tu manges.
Au moins, tu mourras pas de faim.
Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit concrètement. Et puis, j'ai dit, bon, tiens, je vais essayer. Et c'est comme ça que je me suis mis à mettre le premier pied dans une cuisine, on va dire.
Et vous avez bien fait de choisir la cuisine. Ça vous a réussi, Frédéric Simonin. Il y a un rapport entre l'armée et la cuisine, en dehors du vocabulaire, la brigade, etc.
Ah oui, oui, je pense que... Alors, autrefois, bon, ça fait quand même 28 ans que je fais ce métier. Donc, c'est vrai que dans les années 90, les grands restaurants parisiens, il n'y avait pas déjà autant de restaurants qu'aujourd'hui. Il y avait des grandes maisons comme Le Doyen, La Serre, Le Laurent, Tour d'Argent. Et il y avait effectivement des brigades de cuisine avec des degrés. Hein. Il y avait le communard, celui qui faisait à manger pour le personnel. Il y avait l'aboyeur, la personne qui était au pass et qui annonçait les bons. Et il y avait réellement cette hiérarchie culinaire qu'on retrouvait, c'est-à-dire le deuxième commis, le premier commis, le demi-chef de partie, le chef de partie, le premier chef de partie, le second ou le troisième sous-chef, et puis crescendo, ça montait jusqu'à chef de cuisine. Et puis récemment, après, avec la mode des entreprises américaines, où le chef exécutif, mais avant ça n'existe pas, c'était chef de cuisine. Donc voilà, donc on retrouvait un petit peu cette...
Une hiérarchie.
Une hiérarchie.
Une rigueur, une discipline aussi.
Ah oui, absolument, bien sûr. Qui se perd un peu aujourd'hui.
Hein. Ah bon?
Oui, on n'a plus la même notion aujourd'hui qu'il y a 25-30 ans en arrière, ou bien même
Vous
même
voulez
avant.
Dire que les jeunes ne respectent plus les anciens dans
non,
les cuisines?
Non, c'est pas ça que je dis, c'est que aujourd'hui on va tellement vite qu'on passe justement ces étapes. Et ces étapes, en soi, étaient aussi une bonne chose. Pour pas brûler les étapes, pour justement savoir où se situer, et puis rester à une position, à une place, avec une maturité, puis avec une âge qui convenait parfaitement au titre, on va dire.
Vous n'avez pas brûlé toutes les étapes, Frédéric Simonin. Vous les avez même franchies presque une à une, hein, on peut le dire. Vous avez été meilleur apprenti de Bretagne à 17 ans. Ouais. Après, vous êtes monté à Paris, comme
oui,
on dit.
Oui.
Vous vous êtes retrouvé commis de cuisine chez Le Doyen, sous oui. la houlette de Ghislaine Arabian. Vous avez des souvenirs de ça?
Ah oui, c'était...
Oh, c'est pas si vieux déjà, vous n'êtes pas,
ah non,
pas
mais
très âgé encore.
Ça remonte quand même. J'ai 43 ans, donc là, vous imaginez, je venais juste d'avoir 18 ans. On se retrouve comme ça, on sort de l'adolescence et on arrive dans une brigade, un grand restaurant parisien. On est émerveillé et puis en même temps, on est aussi très intimidé. Hein.
Et on apprend énormément de choses.
Et on apprend, mais on apprend toujours.
On apprend tout.
Même aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bon, vous imaginez un petit gars de 18 ans, tout frêle, qui arrive là, dans une cuisine comme ça, avec une femme chef en plus. Donc,
Et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant, il y en avait encore moins il y a quelques 26 ou 27 ans. Donc.
Ouais, oui, c'est ça.
Bon, et alors après, le Muris avec Marc Marchand, Taïwan, le Georges V avec Philippe Legendre,
ouais.
puis à nouveau chez Ghislaine Arabian, ouais, avant
oui.
de prendre les commandes du 16 au 16, c'était le nom
c'est ça.
Du restaurant. Première étoile Michelin à 27 ans. En 2004, jeune chef du guide Pudlowski. Et j'en passe là, des étapes. En fait, vous devez pas mal de ce parcours fulgurant, Frédéric Simonin, à la rencontre avec un homme en 1993. Ouais. Cet homme, c'est Joël Robuchon,
oui.
qui est mort il y a quelques mois.
Oui.
Rencontre décisive pour vous?
Alors, c'était la cerise sur le gâteau, c'est ce que je dis toujours. Hein. Joël Robuchon, tout le monde connaissait sa rigueur. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que quand on est exigeant avec soi-même, on l'est avec les autres aussi. Et puis, on laisse pas de place à la médiocrité. Donc, je pense que tout ça, ça me colle bien à la peau, parce que l'armée, la Légion étrangère, entre parenthèses, c'est la perfection aussi dans le travail. Hein, c'est quand même une élite. On forme des gens à endurer certaines choses et à l'accepter. Pour faire quoi? Pour faire quelque chose, entre parenthèses, d'extra. Donc, c'est sûr qu'avec lui, c'était une très très belle rencontre. Mais en 93, en fait, je devais rentrer au Jamin à l'époque.
Qui était le restaurant de Joël Robuchon.
Voilà, tout à fait. C'était son restaurant. Et puis, il n'y avait plus de place en cuisine. Donc, il voulait me mettre en pâtisserie. Puis, j'avais dit non, je ne vais pas aller en pâtisserie. Il n'avait pas été content. Il m'avait raccroché au nez, je m'en rappelle. Et puis, sa secrétaire m'a rappelé. Il m'a dit, je vous repasse, monsieur Robuchon. Voilà, puis il m'avait dit, bon, écoute, je vais te mettre quelque part, et puis derrière, je te récupérerai.
Et il vous a récupéré, hein, vous êtes devenu chef. Plus tard.
De nombreuses années derrière.
En 2004.
Oui, parce que, voilà, c'est
hein,
ça.
Après 10 ans plus tard, vous êtes devenu chef de son restaurant parisien, la table de Joël Robuchon. Puis chef exécutif, là, c'était encore le cas, de ses restaurants à Londres. Vous l'appelez encore Monsieur Robuchon, Frédéric Simonin?
Ah, bien sûr, bien sûr. Bah oui, Monsieur Robuchon, il y a le
respect.
Il restera toujours Monsieur Robuchon, oui.
Et Monsieur Robuchon, il avait beaucoup de recettes et beaucoup de savoir-faire à son actif. Mais il y a une recette qui reste, un plat qui reste, le plat mythique de Joël Robuchon, c'est la purée.
La purée de pommes de terre.
Écoutez-le dans cette archivina parler de comment il a fait la purée de pommes de terre, un plat mythique. Nous sommes le 3 mai 1998.
Lorsque je me suis installé, disons qu'il fallait choisir des plats, vous savez, j'ai failli repartir, c'était un restaurant qui était tombé, donc j'avais des menus qui étaient pour attirer un petit peu la clientèle, et je me souviens, il y avait un plat qui était une tête de cochon. Et avec cette tête de cochon, c'était quand même un restaurant luxueux, il fallait servir une garniture qui soit en rapport, et puis j'ai pas hésité, c'était en 81, j'ai servi une pomme purée. Alors la pomme purée, ça peut surprendre, déjà dans un établissement comme ceci, mais vous savez qu'en fin de compte, la cuisine, ça se juge sur des plats très simples. Et tout le monde en souvenir la purée de sa mère, de sa grand-mère, de son enfance. Et lorsqu'on arrive à leur faire oublier ce souvenir, je crois que c'est la réussite. Et je crois que pour juger une bonne cuisine, il faut pas juger sur un plat sophistiqué, donc on n'a pas l'habitude de manger. Il faut juger souvent la cuisine sur les plats quotidiens que l'on mange tous les jours. Et lorsqu'on le trouve meilleur que ce que l'on mange, ça veut dire que c'est bon, une simple salade. Et donc cette purée de pommes de terre est devenue vraiment la spécialité de la maison. Et depuis maintenant, tous les clients habitués, d'abord le premier plat qu'ils demandent, vous n'oubliez pas la purée.
D'accord.
Et les clients en prennent 2 fois, 3 fois. C'est vraiment, vous voyez, alors j'ai pas beaucoup, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de mérite parce qu'en fait, quand on vient chez moi pour manger de la purée.
Frédéric Simonin, la purée de pommes de terre de Joël Robuchon, c'est quoi le secret? Pourquoi elle est si bonne? Pourquoi on y revient toujours?
Le secret, c'est l'huile de coude, tout simplement. Il y a toujours eu des polémiques sur la quantité de beurre par rapport à la quantité de pommes de terre.
Lui, il disait 250 grammes minimum. Et vous la faites et j'ai ouï dire que vous mettez 750 grammes de beurre pour 1 kilo de patates.
Moins maintenant.
Ah bon, quand même.
Moins maintenant. Non, c'est vrai que pendant un moment donné, tout le monde disait c'était tant pour tant de beurre, tant de pommes de terre. Parce qu'en fait, le beurre, il doit s'incorporer petit à petit. Il doit être taillé en cubes réguliers et très 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 froid. Et il doit pas déphaser, il doit pas se séparer. La casine du petit lait ne doit pas se séparer. Et donc, si on mélange avec harmonie et puis une chaleur bien convenable le beurre dans la purée, eh ben on ne voit pas le beurre. Hein, ça rentre dedans, ça devient crémeux, ça devient onctueux. Il y a aussi une texture en bouche, de l'épaisseur. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, il faut la fouetter pour la rendre bien homogène. Mais on met pas 1 kilo de beurre pour 1 kilo de pommes de terre.
Ah,
hein, on est bien d'accord.
Là, hein. Vous faites, Frédéric Simonin, la purée de pommes de terre de Joël Robuchon ou vous faites la purée de pommes de terre inspirée par Joël Robuchon, revue par Frédéric Simonin?
Non, on fait la purée Joël Robuchon. Hein, Frédéric Simonin n'a pas inventé la purée de pommes de terre. Donc, on l'a fait d'une certaine manière à la table. D'accord, de Joël Robuchon. Il fallait la même rigueur après partout dans tous ces restaurants. Après, c'est vrai que certains chefs,
grosses rates du Touquet, pareil.
Alors, la rate du Touquet aujourd'hui, c'est plus la même pomme de terre, hein, parce que avant, il avait une personne qui cultivait spécialement pour lui cette variété de pommes de terre. Aujourd'hui, l'artisan, forcément, il n'est plus là, hein. Donc, on peut le faire avec différentes pommes de terre. On peut le faire avec de la Binche. On peut le faire aussi avec de la Mona Lisa. Enfin, tout dépend de ce qu'on a envie d'utiliser.
Il disait dans cette archive, Joël Robuchon, qu'il ne faut pas juger les plats sur des choses trop sophistiquées, qu'il faut juger les plats sur ce qu'on mange quotidiennement, tous les jours.
Oui.
Une salade simple, une purée de pommes de terre. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, absolument. On reconnaît la grandeur d'une cuisine dans sa simplicité.
Donc vous faites des plats simples également?
Ah oui, bien sûr.
Frédéric Simonin, vous sortez un livre, Frédéric Simonin, la cuisine d'un chef engagé. On va venir sur ce terme de chef engagé, bien sûr. Préface de Joël Robuchon.
Mais oui.
Et dans cette préface, Joël Robuchon donne les qualités d'un chef. Rigueur, discipline, amour du travail bien fait, créativité et fraternité. Je suppose que vous êtes d'accord avec tous ces adjectifs, mais quelle serait votre qualité principale à vous? Est-ce que vous êtes capable de le dire en cuisine?
Je sais pas, je pense que c'est les autres qui doivent dire mes qualités, parce que après ça fait un petit peu prétentieux de les dire. Mais
La précision, par exemple?
Oui, de se remettre en question.
Ah, c'est pas la même chose.
Ah, c'est pas la même chose, mais de se remettre en question chaque jour. C'est-à-dire que quand je viens au travail, je pense toujours à la journée qui va se passer. Je me dis que je vais être à la hauteur en tant que chef devant mes équipes. Donc, on se pose toujours des questions. Hein, est-ce que je vais leur apporter quelque chose qui va, à leur tour, leur apporter derrière des objectifs pour eux, et puis est-ce qu'ils vont réussir à l'interpréter, à le retransmettre à nouveau plus tard pour les autres.
Voilà du grand purée.
De la bonne purée, c'est féminin.
Ah oui, c'est pas de mon nom, Philippe.
Andrea, tu en veux un peu?
Ah oui, Philippe, j'adore la purée.
Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture. C'est l'heure de la Madeleine de avec Natacha Triou. Madeleine de...
La Madeleine d'un de nos écrivains les plus gourmands, Éric Orsenin. Vous le connaissez, Frédéric Simonin, puisqu'il a écrit la préface de votre livre. Alors, l'académicien est aussi membre de l'Académie des Vins de France. Il a également fait un livre avec Alain Sandrin, l'un des maîtres de la gastronomie. C'est sur une terrasse parisienne qu'Éric Orsenin nous raconte les secrets de cuisine de sa grand-mère lyonnaise.
S'appelait Colette, était lyonnaise et, comme on dit là-bas, très fine gueule. Donc j'ai été élevé au pied du piano ou au pied de la cuisinière. Et donc je faisais la cuisine avec elle très tôt. Et donc un de mes grands souvenirs, c'est quand elle me faisait participer. Alors j'ai participé à des blanquettes, j'ai participé à des bourguignons, etc. Mais j'ai un souvenir de bœuf carotte particulier. Parce que c'est les premiers chagrins de ma vie, parce que mon rôle, c'était de couper les oignons. Et donc, ensuite, c'était couper les carottes. Et ensuite, ce que j'adorais le plus, parce que c'était plus facile, une fois mon chagrin asséché, c'était de m'occuper des lardons. Donc, j'ai eu cette chance immense d'avoir une grand-mère qui avait été passé tout son temps à Lyon. Donc, après, quand j'ai rencontré Bocuse, je lui ai dit, voilà, je suis à la maison, moi. Et donc, c'était des gens qui m'apprenaient ce que c'était que le terroir, ce que c'était que la diversité, ce que c'était que le soin passé. Et puis, comme on dit, faire à manger, c'est pas nourrir, c'est le cadeau, le triolisme qu'il y a entre la carotte, l'oignon et le relevé, et après ça remonte, et qu'est-ce qu'on remonte comme ça, les petits lardons, alors là c'est complètement fou. Et alors quand il y a le fondant de la viande, alors du bœuf, alors évidemment il faut manger ça le lendemain. Donc c'est la lenteur, c'est l'inverse de la fast-food. Et la table, pour moi, est un lieu d'apprentissage de, comme on dit, de vivre ensemble. C'est-à-dire, manger ensemble, ça permet d'apprendre à vivre ensemble. Et puis, voilà, donc, et la table, c'est le lieu du vivre ensemble, et puis c'est quand même le grand lieu de drague. C'est-à-dire, le lit commence par la table.
Le coquin d'Éric Orsenin, j'espère qu'il s'est arrêté là, Natacha, pour la drague. Frédéric Simonin, Éric Orsenin, c'est un rapport amical. Il est effectivement l'autre préfacier de votre livre. Il est aussi le chef Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée. Un mot sur Éric Orsenin et votre rapport à lui.
Il me fait rire, Éric, que j'entends un petit peu ce passage. Eh ben, le rapport, c'est tout simplement que je suis en admiration devant ce monsieur, qui est un grand monsieur pour moi. Et la chose qui est assez rigolote, c'est moi qui étais nul à l'école et qui ne sais toujours pas écrire correctement sans faire de faute d'orthographe. Eh ben, Éric Orsenin, pour moi, a été le maître d'un autre côté. Hein. J'ai eu Joël Robuchon dans Le Maître de la Cuisine, et puis Éric Orsenin dans l'écriture, dans le phrasé, dans le verbe, enfin voilà, c'est un grand monsieur.
Et quand il parle avec le verbe qu'on lui connaît, Éric Orsenin, quand lui dit faire à manger, c'est pas nourrir, c'est le cadeau, c'est la lenteur, manger ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble, est-ce que c'est des mots, tout ça, ou est-ce que ça a du sens pour vous, le chef cuisinier?
Non, ça a du sens. Absolument. La nourriture, la cuisine, c'est compliqué de définir la cuisine en soi. Parce que la cuisine, c'est le partage, c'est des rencontres, c'est... La cuisine égale les prémices de la vie, les prémices du partage, de l'amour, de... Et j'adore la façon que Éric Orsenin a de définir la cuisine. on le sent, il le vit, quoi. Il y a un vécu, quoi. C'est pas quelque chose qu'il va aller chercher, imaginer comme ça, quand il parle de ses petits lardons, et puis de ses oignons, et de sa carotte, et puis de cette sauce, et puis qu'il dit que la cuisine, c'est pas un fast-food. C'est, ça a besoin de temps, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour faire de la cuisine, il faut du temps. Voilà.
Et c'est le partage, dites-vous. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que vous avez fait un livre aujourd'hui, Frédéric Simonin, pour partager. Parce que ce livre, qui est absolument magnifique, qui paraît aux éditions du Chêne, avec des photos de Julie Limon, il me semble que c'est autant un livre de recettes, avec des sublimes photos, il faut bien le dire, qu'un hommage aux producteurs avec qui vous travaillez.
Oui.
Parce que vous faites des portraits de ces personnes avec qui vous travaillez. Vous donnez aussi les adresses, comme si vous aviez envie de les faire connaître à tout le monde. Donc, oui, de partager ça aussi.
Oui, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. C'est vrai que ce livre est un peu éclectique et quand on voit, on a une préface effectivement d'Eric Orsona, on se dit bah, tiens, qu'est-ce qu'un académicien vient faire là-dedans ? Donc ça peut poser à question. Bon, ensuite, Guillaume Gomez, mon ami Guillaume, forcément, il est cuisinier. Monsieur Robuchon aussi. Mais on laisse la place, c'est-à-dire que je ne suis pas seul à m'imposer dans ce livre. C'est tout un travail de plein de gens, à commencer par effectivement les éditions Chêne qui ont été là, qui m'ont soutenu, qui m'ont accordé un moment à se dire, bon allez, on fait ce livre ensemble. Donc sans eux, rien ne se serait fait. Et puis il y a Bleu Blanc-Cœur aussi.
Alors Bleu Blanc-Cœur, oui, c'est ça, parce que c'est la cuisine d'un chef engagé,
oui,
le titre de ce livre.
Oui.
Vous êtes ambassadeur de cette association, il faut peut-être rappeler ce que c'est l'association Bleu Blanc-Cœur.
Oui, association Bleu Blanc-Cœur, on dit bien une association, hein. C'est pas du tout autre chose que ça. Eh bien, c'est une rencontre avec Pierre Veil, qui est le créateur, avec Jean-Pierre Pasquier, qui se sont décidés de faire... diffuser un message que pour bien nourrir les hommes, il faut bien nourrir les animaux. Et donc, ça passe par l'alimentation. On ne parle pas de pesticides, on ne parle pas d'engrais, on ne parle pas de tout ça. On parle de luzerne, de lin, de lupin, de graines saines pour bien nourrir les animaux et pour avoir un résultat concret derrière dans l'alimentation.
Donc, un plat qui est avec des produits Bleu Blanc-Cœur,
oui,
c'est un plat certifié bien-être animal.
Oui, alors il y a plein de choses qui est bien-être animal, on est bien d'accord. Mais c'est mon cheval de bataille, c'est-à-dire que au-delà de ça, il y a une rencontre humaine qui s'est faite aussi, bien évidemment, avec des gens qui ont une volonté de bien faire les choses, qui ont une volonté surtout de fédérer avec une multitude de personnes du monde agricole. Et puis aussi notre alimentation, qui est primordiale. Vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de cancers. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on développe des cancers par rapport à l'alimentation qui peut être malsaine, par rapport à des choses rajoutées dans l'alimentation. Donc, une prise de conscience qui est venue comme ça, en plus dans ma carrière. Bon, même si nous, les cuisiniers, on fait toujours bien à manger. On choisit les meilleurs produits de qualité, des produits...
saison.
De saison. Alors bio, j'aime pas trop dire ce mot, même si le bio a une place importante, mais il y a 30-40 ans, tout était bio. Hein. Sorti d'une terre sans engrais, sans rien, c'était bio. Donc aujourd'hui, on en fait un commerce du bio. Donc voilà, mais on a toujours été, je pense, très attentif à ces détails.
C'est quoi le style, Simonin, en cuisine, bien sûr?
Alors, y a-t-il un style,
oui,
Simonin?
C'est peut-être la première question.
Point d'interrogation. Non, il n'y a pas de style Simonin. Je dis toujours que le style Simonin, c'est le parcours que j'ai eu en cuisine. Donc, j'ai appris énormément de choses avec les chefs avec qui j'ai travaillé. Et j'ai appris énormément de choses aussi avec les cuisiniers avec qui j'ai partagé ma carrière. Et puis, les voyages, bien évidemment.
C'est ce qu'il dit Eric Orsena. Hein. S'asseoir, ouais, chez Frédéric, c'est partir en voyage.
C'est gentil, mais c'est des voyages. C'est-à-dire que la transmission, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontière. Je peux aller chez quelqu'un, cette personne va faire à manger, elle va faire la cuisine, et ça va me donner une idée. Voilà. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, une émotion, un partage, aussi simple soit-il, mais ça peut me donner une idée. Et donc voilà.
Est-ce que là, cette conversation que nous avons eue ce dimanche midi, vous a donné une idée d'un plat que vous pourriez faire et que vous pourriez partager avec nous?
Alors là, comme ça, à froid...
Oui, alors vraiment, on ne vous a pas du tout inspiré.
Non, mais il y a plein de choses. C'est, vous savez, c'est les coups de folie dans la cuisine, ça vient comme ça de temps en temps. C'est spontané, hein, ça se réfléchit pas.
Ah bah c'est pour ça que je vous pose spontanément la question. Là, comme ça, là, vous feriez un plat.
On pourrait être ensemble sur un marché tous les deux, et puis je suis sûr que là, on arrivera à faire quelque chose de bien.
Bon bah, on va sortir de ce studio. Là, il est midi, on a encore midi et demi presque. On a encore le temps d'aller récupérer quelques produits sur un marché. Merci beaucoup, Frédéric Simonin, d'être venu ce midi dans Les Bonnes Choses. Votre livre, Frédéric Simonin, La cuisine d'un chef engagé, avec donc des préface de Joël Rebuchon, d'Éric Orsena et une interview de Guillaume Gomez, c'est paru aux éditions du Chêne, avec des recettes qui font saliver, des photos sublimes de Julie Limon et donc des adresses de producteurs à suivre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pierre Hiverna, vous nous avez promis un livre. Ça va saigner, vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui, ça va saigner, Caroline, parce que je voudrais vous parler d'un livre qui vient de sortir chez Larousse et dont le titre souffre effectivement peu d'ambiguïté. Je cite « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser ».
En effet.
Le tout étant assorti en couverture d'un sticker sur fond bien rouge qui fait office de sous-titre et qui affirme « Pourquoi les végans ont tout faux ». A priori, une pareille couverture appartient au monde plutôt du militantisme ou de la polémique à l'emporte-pièce qui vous permettent de magnifiques clashs comme on les aime maintenant sur les réseaux sociaux. Mais dans le cas d'espèce, l'auteur Paul Ariès n'a guère l'habitude de faire dans le superficiel et encore moins dans l'approximation. Auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages, ce politologue et essayiste ne peut non plus être soupçonné de rouler pour qui que ce soit qui aurait la tête d'un industriel de l'agroalimentaire ou d'un lobby. Ajoutons qu'il n'est pas non plus un nouveau venu sur le sujet qui aurait succombé au bon filon éditorial à la mode. Paul Ariès publiait déjà, tenez-vous bien, en 1997, La fin des mangeurs, un autre ouvrage, Les fils de McDo, et en 2000, déjà inspiré par le sujet, Libération animale ou nouveau terroriste, point d'interrogation. Et plus récemment, en 2016, Une histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours, tout à fait passionnante. Donc pour ceux qui ne chercheraient que des éléments de langage, un argumentaire simple, voire simpliste pour défendre leur goût pour la viande, il va vous falloir passer votre chemin car ce livre va vous paraître beaucoup trop long. Particulièrement dans le fait que Paul Ariès s'attache à chaque point polémique à remettre les débats dans leur perspective historique. Vous découvrirez ainsi le père du végétarisme moderne, un certain Jean-Antoine Glézès, auteur en 1821 d'un mystérieux Thalissi ou système physique et intellectuel de la nature qui semble-t-il est une véritable bible des végétariens. Ou encore, vous découvrirez également plus intéressant qu'être vegan est tendance chez les néo-nazis et que Goebbels soutenait, je cite, que l'homme ne doit pas se sentir supérieur aux animaux.
Ça me semble tout à fait analytique comme perspective. Est-ce qu'il y a des choses aussi sur la situation actuelle ?
Ça aurait pu effectivement, Caroline, être relativement analytique ou universitaire si le style de Paul Ariès n'était pas vif et dynamique avec une invitation permanente du lecteur à réfléchir à ses actions sans pour autant systématiquement opposer vegan et non-vegan. Ainsi, je vais donner quelques exemples, de nombreux chapitres se concluent par exemple par ce type d'adresse. Je cite « Ami vegan, si tu considères que l'industrialisation et l'artificialisation du monde sont une mauvaise chose, peut-être devrais-tu reconsidérer tes choix alimentaires ?» Ami mangeur de viande, de fromage et buveur de lait, si tu vomis ce que le productivisme et le capitalisme font à ton alimentation, peut-être devrais-tu aussi reconsidérer l'ensemble de ton mode de vie. Mais attention, Paul Ariès a cependant très clairement choisi son camp et quelques titres de chapitres donnent le là de sa pensée, comme par exemple « Les véganes, VRP des biotechnologies », Le véganisme n'améliorera pas votre santé, ou encore, et plus troublant à découvrir, le chapitre intitulé « Ces véganes qui se clament anti-écolo ». Ce livre s'adresse donc à tous, particulièrement à ceux qui s'interrogent sur les rapports entre l'homme et l'animal, objet d'une analyse très argumentée.
À chacun de faire son propre avis, bien entendu. On rappelle peut-être le titre de cet ouvrage, un titre un peu long.
Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser.
De Paul Ariès aux éditions
Larousse pour 9,95€.
Merci Pierre Hiverna. Les bonnes choses se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Alexandra Condilongué pour la réalisation et notre technicien du jour, Ludovic Auger, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.